Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Et puis, merci à la boutique d'écriture d'avoir préparé cet espace accueillant et détendu pour rituel dont on va certainement trouver le nom en le faisant, et qui n'est certainement pas un exposé. Et on a parlé de lecteurs témoins, et je crois que ça est une clé pour peut-être saisir la forme qu'on essaye de mettre en place. Mais avant, je voudrais faire une brève introduction et dire que cette rencontre est fait dans l'esprit d'une préoccupation partagée qui est au cœur de cette résidence, et qui est que la pratique de la littérature, que ce soit en tant que pratiquant de la lecture ou pratiquant de l'écriture, dans le cadre des ateliers d'écriture par exemple, aussi que de l'esprit qui est au cœur de la résidence, qui est que quand on pratique la littérature, les arts du verbe, que ce soit en tant que lecteur ou en tant que pratiquant de la lecture ou pratiquant de l'écriture, ça a quelque chose à voir avec la vie. C'est peut-être une conviction un peu naïve, ou peut-être trop évidente pour mériter d'être soulignée, mais c'est juste de dire que ça a quelque chose à voir avec l'expérience de vivre. C'est-à-dire, finalement, la question, c'est ce qu'on a intitulé notre petite, on a commencé notre petite invitation par vivre s'apprend, c'est ça, hein? Non.
Vivre ne
s'apprend
pas seul.
Vivre ne s'apprend pas seul. Donc c'est aussi, nous venons au monde dans des sociétés où on nous le dit d'une certaine façon. C'est-à-dire que dès l'enfance, on se promène dans les parcs et il y a des statues. Et on comprend très vite que ce sont des modèles, des grands hommes. Et il y a des rues qui portent des noms, et on comprend vite que ce sont des modèles, des grands hommes. Bon, après, on fait son tri, si on a la chance de refuser une vie qui ne se soumet pas à l'examen critique. Alors, mais, a priori, quelque chose nous invite à comprendre très vite que vivre ne s'apprend pas seul. Mais après, la question est avec quelle liberté, de quelle liberté on dispose pour choisir ses compagnons de route, ses maîtres, et c'est une autre question. Mais sur principe-là, il y a comme une évidence. Et l'idée, donc, qui est que la pratique de la littérature participe de ce choix de compagnons, et donc de l'acte libre de choisir avec qui on fait la route, avec qui on a reçu des illuminations, c'est-à-dire finalement avoir une vision spirituelle de cette pratique qu'on appelle lire, mais qui n'exclut pas d'autres visions possibles, mais dire que cette vision-là n'est pas quelque chose qui demande une chose qui s'appellerait la spiritualité. C'est une expérience spirituelle, puisqu'on est engagé dans des opérations qui nous invitent à la méditation sur notre propre vie, et qu'il y a des choses qui restent et qui nous accompagnent, et qui sont juste des formules verbales, une citation avec quoi on fait la route pendant des décennies. Bon, on ne peut pas renier son expérience, c'est de l'expérience vitale, c'est juste ce lien-là. Et on essaye, dans le cadre de cette résidence, d'imaginer ensemble, avec l'équipe de la boutique d'écriture, des opérations qui peuvent être des moments de partage de cette expérience, de la pratique de la lecture, et qu'on soit pas, quand je dis pas un exposé, pas dans le commentaire, pas dans la, mais dans quelque chose qui est le partage d'une parole vitale, et c'est pour ça qu'on a parlé de lecteurs témoins, c'est parler des livres comme on donne témoignage Voilà. Donc je vais raconter. Et on a choisi le mot confiance parce que voilà, ça fait partie un peu de ma grille, de mes mots fétiches. Donc c'est raconter aussi un peu comment ce mot-là est devenu pour moi un mot fétiche à travers des auteurs par lesquels j'ai déplié. Voilà, le pli de ce mot-là. Donc, les textes que je vais vous lire et raconter aussi la rencontre avec ces textes-là plutôt que ce que j'en pense. Voilà, pour rester au plus près de ce que je disais au départ sur l'esprit de la chose. Et je pense que c'est dans le même esprit qu'on a fait pendant la comédie du livre, ces deux séances de Boukala, qui étaient une idée inspirée de Lynn. Et bon, je pense qu'on refera ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est aussi une pratique comme ça de partage de textes poétiques, mais autrement que sous forme de récital ou sous forme de... quelle autre possibilité là, par le récital, le commentaire autour des textes, ouais, c'est trouver toujours des formes comme ça qui soient au plus près possible de l'expérience de vivre et de vivre le quotidien. Et ça aussi, c'est au cœur du travail qu'on fait en atelier, par exemple, se poser la question de en quoi ce que l'on fait concerne notre quotidien, en définitive. Donc, voilà, merci beaucoup d'être venu. Et je vais commencer par vous lire des extraits de Imre Kertész, Journal de galère. Alors, Imre Kertész, je vais commencer par lire et puis présenterai le personnage si nécessaire. Alors, c'est son journal. On est là en 1990, et je vais être un peu avant son prix Nobel, parce qu'après le prix Nobel, il a écrit un autre journal qui s'appelle Un autre. Et ce journal commence depuis la rédaction de son premier roman qui s'appelle Être sans destin. Et dans Être sans destin, à partir de Être sans destin, qui est le premier roman que j'ai lu, je me suis accrochée à cet écrivain et j'ai lu tout ce qu'il a écrit, sauf le dernier, je crois. Et pourquoi ? Parce que quelque chose a résonné très, très fortement dans ce roman qui raconte comment un garçon va traverser Auschwitz, et un garçon attrapé à 14 ans, qui va sortir de là à 17 ans, et qui va se retrouver dans la Hongrie, libre, en tant que jeune homme presque, et libre, immédiatement sous une dictature stalinienne, et faisant son service militaire l'année d'après, et on l'affecte comme geôlier de prisonnier militaire. Bon, alors voilà, 18 ans quoi, entre 14 et 18 ans. Et il y a une chose qui n'a jamais bougé, qui est écrire. Je ne sais pas d'où ça vient. Et sous la dictature, il a écrit. Écrit des choses qui n'ont jamais été publiées. Il a mis, je crois, 10 ans à écrire Être sans destin. Et puis il a écrit Le refus, qui a été l'histoire du refus d'un manuscrit qu'il remet dans sa totalité dans Le refus, qui a été publié. Alors, voilà, une vie comme ça. Je vous fais un grand trait le personnage. Mais j'en viendrai à la confiance tout à l'heure, parce que c'est très lié à ce qui ne bouge pas. Et moi, je trouve tous ces auteurs-là dans quelque chose qui a un lien avec l'écrit. Comme Charlotte Delbo qui disait, pendant qu'elle était dans le camp de concentration, « Quand je sortirai d'ici, je laisserai passer 20 ans et j'écrirai ce qui s'est passé ici. C'est là où la confiance arrive, pas comme au mot, mais on tourne autour. Il faut une sacrée confiance. Je ne sais pas en quoi. Et quand je dis l'écrit, ce n'est pas dans l'écrit. Je ne sais pas en quoi. Sauf qu'on lui donne une forme. J'écrirai quelque chose. Et elle écrit cette chose-là en sortant de là. Chez Kertész, il y a eu toujours, et surtout dans toute la traversée du totalitarisme, du deuxième totalitarisme de sa vie entamée à 18 ans, écrit tout ce qui sera publié, enfin publié, plus tard être sans destin, a été publié en Hongrie, mais avec très peu de résonance, on considérait que ça n'avait, que c'était passé le temps pour les gens de s'intéresser à ces questions-là. Et je suis tombée sur le mot bonheur dans être sans destin, dans une situation où le mot m'a explosé au visage, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce mot arrive. Ce garçon était presque mort. Il était avec les morts. Et il entend des voix qu'il identifiera plus tard, quand il sortira de là, comme étant des voix des gens qui venaient chercher les morts pour les brûler. Donc il était sur un tas de morts. Et il entend une voix qui dit « Mais t'es encore vivant, toi ?» Et il est dans une grande brume lointaine. Et il a juste l'ouïe qui perçoit, il ne voit rien, il ne sait pas où il est. Donc première sensation, on va dire, de vie, c'est l'oreille, et qui est frappée par le bruit des autres. Puis on le transporte à l'opposé de l'endroit où on devait l'amener. Et deuxième éveil des sens, l'odorat. Il sent l'odeur de la soupe. Cette soupe dont, cette chose imbuvable qui nous a été décrite tout au long du livre, tout à coup, cette odeur-là rappelle la vie, il n'y a pas d'autre mot à mettre dessus. Et je crois que le troisième sens, c'est les yeux. Et il voit le paysage. Et au croisement de ces trois sensations, même dans une situation comme ça, il met le mot bonheur. Et si c'est lui qui le met, je le crois. Je dis je le suis. Je ne dis pas je le crois, mais je dis je le suis. Si lui me parle de bonheur, je suis prêt à le suivre. Pourquoi j'ai continué à lire tous ces... Il y a certaines choses comme ça qui racontent l'histoire du lecteur. Comme je dis, je fais témoignage, je fais jusqu'au bout. Voilà, je joue le jeu comme ça en racontant une aventure de lecture. Si vous voulez m'interrompre, ou voilà, faites... c'est ça, tout à coup, cette explosion du mot bonheur. On va dire depuis là-bas. Depuis cette presque inconscience, depuis ce vaste projet d'extermination, je dis, voilà quelque chose qui fait que la littérature opère dans la vie, c'est-à-dire quelque chose qui t'écrase quand tu vois les images des archives, quelque chose qui t'écrase même quand tu lis le livre lui-même. Mais tout à coup, à l'intérieur de ça, il y a cette explosion d'un mot, de façon inattendue, et j'allais dire scandaleuse, quoi, voilà. Et c'est cette radicalité là, ça ressemble à la vie, c'est ça que je veux dire, ça ressemble à la vie. Donc on va comme ça de vrac en vrac, hein, il n'y a pas de construction, hein. Boue, gadou, folie, la ville est comme une gravure de Durer, ou plutôt un tableau de Bosch représentant les tréfonds de l'Apocalypse. Tête de cochon, de bête fauve au croc menaçant, tête indolente de cheval et de rat, tête de chien et de quantité d'insectes, de mille pattes, et du mille pattes au cafard. Quelle erreur c'était de naître et de rester ici. Répète en moi la bande magnétique dont le grésillement couvre les différents bruits de ma vie. Mon être véritable sait bien que ce n'est que du charabia et qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard est la lumière la plus vilaine, disons vert jaune, qui tombe sur l'individu. S'en remettre au hasard est la plus grande des balourdises, la faillite la plus totale. Voilà pourquoi il m'arrive de ressentir une euphorie, une confiance. Voilà pourquoi il m'arrive de ressentir une euphorie, une confiance presque transcendante pour ma vie. vie à laquelle je suis asservi comme le nourrisson au sein de sa mère. Cette vie est apparemment la mienne. C'est moi qui la vis. Elle paraît être la réalisation de mon activité extérieure et intérieure. S'y ajoutent les circonstances indépendantes de moi, si tant est qu'elles existent. Mais en même temps, je sais à quel point je suis impuissant face à ma vie et que cette confiance est le seul moyen dont je dispose. Elle suffit pourtant à me maintenir et à m'entretenir, et étrangement, cela me semble réciproque. Voilà, Kertész Brut de Coffre, un hein, beau jour. Et ce lien, et si je ne commence pas, Imon Kertész, c'est que ce lien aussi entre la littérature et la vie, lui, c'est une évidence pour lui, tout son travail repose là-dessus. Et quand on lui dit, est-ce que vous faites des romans autobiographiques, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de roman autobiographique, parce que l'intrication littérature et vie, c'est, quand il dit vie, ce n'est pas biographie, quoi. C'est biographie peut-être, mais ça le déborde. Donc c'est un peu comme ça qu'il... C'est un peu de là que vient cette parole. Alors, en des temps plus forts, l'expression n'est-elle pas de Nietzsche, le sentiment d'une alliance conclue avec Dieu se nourrissait peut-être de cette confiance. Aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est sans doute à cause de l'âge, de la proximité de la mort, il parle de lui, l'individu n'est que le sommet de l'iceberg. On dit iceberg ou iceberg?
Iceberg.
Ok. L'individu n'est que le sommet de l'iceberg, incontestablement. Du haut de ce sommet, on ne discerne pas la masse immergée qui peut être la réalité collective. Son existence n'est signalée que par ce sentiment, la confiance, ou son contraire, la déréliction. La réalité transcendante nous entoure comme le giron maternel. C'est la seule assurance que nous ayons. Tout ce que nous considérons comme une assurance matérielle est mille fois moins sûr. De cette manière, la tragédie individuelle est une erreur, mais non le bonheur. Le divin se reflète dans la joie sous forme de pensée créatrice ou de pensée de la création. L'absurde n'est qu'une humeur, certes, une humeur bien fondée qui sied à l'homme. Alors, je fais un grand saut pour vous lire la fin de ce journal. Parce qu'il faut que je vous lise des extraits d'Épictète et puis après je vais arrêter. Voilà. Il parle d'un ami qui s'appelle Elle. Il dit, pour elle, l'art doit être au service de la survie. Parce que, dit-il, si on voit la vérité toute nue, il ne nous restera plus qu'à nous pendre. Ou au moins... pendre celui qui nous l'aura dévoilé. Ce comportement n'a rien d'inhabituel. Je ne serais pas étonné d'apprendre que elle est un bon père de famille et qu'il fait ce qu'il fait uniquement en pensant à l'avenir de ses enfants. Sauf qu'une littérature relative est toujours mauvaise et qu'un art non radical est toujours médiocre. Un bon artiste n'a pas d'autre choix que de dire la vérité et de la dire radicalement. Cela ne l'empêche pas de rester en vie, puisque le mensonge n'est pas la seule et unique condition de la vie, même si beaucoup ne voient pas d'autres possibilités. Ces derniers temps, j'imagine souvent un vague personnage. Un homme sans âge, mais plutôt âgé. Ou, ou au moins vieillissant. Il va, il vient, fait ce qu'il a à faire, vit sa vie, souffre, aime, part en voyage, revient. Parfois il est malade, d'autres fois il va à la piscine, il voit des amis, joue aux cartes, mais dès qu'il a une minute de libre, il s'enferme dans un réduit secret, s'assied devant un instrument de musique fatigué, plaque presque distraitement quelques accords et se met à improviser en sourdine. Depuis des dizaines d'années, il joue d'innombrables variations sur le même thème. Puis, il se relève d'un bond. Il va partir. Mais, à la première occasion, on le retrouve devant son instrument, comme si la vie n'était qu'une parenthèse obligatoire entre deux improvisations. Si les notes qu'il tire de son instrument s'immobilisaient et gelaient dans l'air, accolées les unes aux autres, on verrait peut-être une concrétion de cristaux de glace rappelant un spasme catatonique dans laquelle, à bien y regarder, on reconnaîtrait à coup sûr la persistance d'une volonté d'expression. Même si ce n'est que celle de la monotonie. Et si par hasard, on les notait sur du papier à musique, on y distinguerait les contours d'une fugue de plus en plus dense qui tend nettement vers un but en même temps qu'elle l'éloigne et le repousse, de sorte qu'il devient de plus en plus vague. Pour qui joue-t-il? Pourquoi joue-t-il? Lui-même ne le sait pas. De surcroît, et c'est là le plus étrange, il n'entend même pas ce qu'il joue. Comme si la force occulte qui le ramène sans cesse à son instrument l'avait privé de son ouïe, afin qu'il ne joue que pour elle. L'entend-elle au moins? La question est, avouons-le, dénuée de sens. Il faut naturellement imaginer le joueur heureux. Voilà, salutation de Imre Kertész. Ce que je trouve aussi enfin, très appelant moi, dans ce texte, c'est que ça ne fait pas de cadeau, ça ne fait pas l'économie de la vision tragique de l'histoire. Et la question c'est, qu'est-ce qui me reste? Et c'est cette petite part de liberté, et c'est sur cet appui-là que toute cette expression arrive. Et quand il parle de confiance, voilà, je ne vais pas faire de commentaire, on l'a entendu comment le mot confiance résonne comme un sentiment cosmique, transcendante, il dit, ouais, transcendante. Alors, sur le chemin de ce mot de confiance, je suis. Alors, non, je vais introduire ça autrement. C'est Épictète. Où c'est Épictète? Ah, bah oui, c'est pas sous mes yeux. J'écrivais à l'époque un roman qui s'appelle L'ombre des choses à venir. Et il y a une scène dans ce roman, qui est une scène que j'ai vue dans un documentaire et que j'ai décrite dans ce roman. Et c'est des moines qui se sont immolés par le feu dans une rue de Saïgon. La guerre entrait dans la ville et c'était leur ultime protestation, unique et ultime protestation. Et ce qui est frappant, au-delà de ce qui peut nous apparaître tous comme avant, certains d'entre nous, comme absurdes. Dans le, enfin, si on raisonne en termes de stratégie, c'est un grand gâchis. Parce que ça, ça n'a pas d'effet si c'est pour arrêter la guerre. Mais en même temps, ça questionne. Et moi, ce qui m'a questionné, d'abord, c'est les corps. C'est-à-dire, avant de me poser la question du sens, c'est les trois corps, c'est des corps qui brûlent ne sont pas immobiles. Il y a quelque chose qui frappe en premier lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est inouï. Indépendamment de qu'est-ce que ça raconte. C'est inouï. Des corps qui brûlent ne sont pas immobiles. C'est quand un corps prend feu, il se lance dans tous les sens. Je vois trois personnes en position de lotus en train de brûler, pardonnez-moi l'expression, tranquillement. C'est-à-dire qu'autour d'eux, le monde était plus agité, plus saisi de spasmes, la foule, les bicyclettes qui s'arrêtent, des gens qui se mettent, mais qui ne les touchaient pas, enfin, ils ne pouvaient pas, mais qui se mettent à quelques mètres d'eux et qui se prosternaient comme si des dieux, ou, enfin, des choses que ça a provoqué dans les corps étaient d'une secousse incroyable. Et ces trois corps brûlaient comme... J'avais écrit dans le roman comme si c'était une formalité, ou s'ils avaient... Et ça faisait très... Enfin, moi, ça m'a saisi, ces corps-là. Et je me dis, la question n'est pas comment ils font, la question c'est... C'est là où le mot confiance m'est venu. Que c'est un acte de confiance, en ce sens où c'est transcendant, en ce sens où ça provoque quelque chose d'inouï. Dans les autres corps qui sont là. En ce sens que la question que ça pose, c'est au-delà de la guerre du Vietnam, même si ça contient la question de la guerre du Vietnam. C'est quand, par exemple, Kertész parle de l'échec de l'humain, comme de la Shoah ou la pratique industrielle de l'esclavage, sont des moments de l'histoire qu'on doit regarder comme des moments d'échec. Dans la construction de l'humanité et prendre acte de cette étape qu'il faut considérer comme échec. J'ai l'impression qu'ils disent quelque chose de ça. Kertész aurait appelé ça l'échec de l'humain ou l'échec de l'humanité. Mais en termes de l'histoire humaine, ce que les hommes appellent l'humanité, c'est quand ils se projettent dans ce qu'ils appellent l'histoire. Hein. Bon, après, je sais pas, on peut discuter du terme humanité aussi. Donc cette histoire, cette confiance-là, j'étais en écrivant ce roman, j'étais dans un triangle qui vient de Kertész, qui est liberté, vérité, solitude. D'ailleurs, et je traversais des figures comme donc Kertész lui-même, mais aussi dans l'histoire, des figures comme Giordano Bruno, Galilée, enfin toutes ces figures qui ont pris le risque physique, ont pris des risques physiques, ont pris le risque de la mort, au nom d'une vérité qui s'était pratiquement seule à défendre parfois. Et c'est ça qui est, c'est cette liberté-là qui est proche de cette volonté d'expression, de cette volonté de création que Kertész considère comme un socle, comme ce qui ne bouge pas. Comme ce qui ne bouge pas. Et j'ai retrouvé chez Épictète une vision de la liberté et qui me semble renvoyer à cette confiance-là. Donc, dans mon triangle liberté, vérité, solitude, j'ai mis dans le triangle le troisième terme, le quatrième terme, qui est confiance, à la place de l'œil, quoi, voilà. Et donc, voilà. Et puis peut-être, je vais vous lire dans les entretiens, ce que j'aime dans le lien encore qu'on fait entre la pratique et la vie, c'est que Épictète parle de liberté, c'était le grand thème de sa philosophie. Je pense que c'est le grand thème, les autres tournent autour, le consolident. Et cet homme a été fait esclave dans son enfance, a été attrapé, vendu enfant, a été esclave de Épaphrodite, qui a la réputation d'être un maître méchant, qui lui aurait cassé une jambe, ce qui fait qu'il est peut-être aboité toute sa vie. Mais il lui permettait d'aller suivre les cours d'un philosophe qui avait une école qui s'appelait Rufus, je me souviens. Et il a été affranchi probablement à la mort du maître, et il a créé une école de philosophie. Et Domitien, qui n'aimait pas trop les stoïciens, les chasse de la ville, et donc 40 ans d'exil, hors de Rome. Domitien donc quitte Rome, et donc cet homme vit son enfance dans l'esclavage et sa vie d'homme libre en exil, et avec une femme et un enfant qu'il avait adopté. Je vous raconte la vie de l'homme, hein. C'est pas pour faire sa biographie, mais parce que c'est depuis lui qu'on entend résonner le mot liberté. Et c'est pour entendre aussi ce qu'il dit dans la résonance de l'expérience vécue que je vous raconte. C'est pour ça que je vous raconte l'histoire. Et il vit donc 40 ans en exil, et il est probablement mort. En exil. Alors, l'histoire raconte qu'en exil, il a vécu dans une extrême pauvreté, même si son école de philosophie était célèbre. Il a vécu dans une extrême pauvreté. Il n'avait qu'un lit et un deuxième objet, une lampe. Épictète. Il n'avait pas qu'un lit et une lampe. Il avait un lit et une lampe. C'est pas la même chose. je voudrais vous lire ce dialogue dans des entretiens où Épictète parle de. Il parle tout le temps de la liberté, hein, mais dans ce dialogue, je choisis cet échantillon-là. Alors Épictète dit clairement, par exemple, alors Épictète établit clairement ce lien que nous établissons, que j'ai défini au départ, entre la vie et la littérature. Épictète établit la même chose entre la philosophie et la vie. Il dit ici, c'est pourquoi est-ce que des jeunes gens viendraient vous écouter le grand maître faire des heures de commentaires sur tel autre grand maître s'ils sortent de là et qu'ils ne savent pas comment être... en s'en servir comme outil pour explorer le monde et résoudre des questions ou au moins les aider à poser les bonnes questions dans les situations concrètes de leur vie. Et il dit, si ce n'est pas possible, alors cette philosophie n'a pas d'intérêt. Donc voilà, encore, on n'est pas seul dans cette vision-là, on partage ça aussi avec d'autres informations, on n'est pas les inventeurs. Quoi. C'est aussi une expérience vécue humaine, hein, qui s'exprime par... Voilà, alors je ne vais pas vous lire ça, je vais aller directement au dialogue sur la liberté. Alors, Alors, de la liberté. Est libre celui qui vit à sa guise, celui qu'on ne peut ni contraindre, ni empêcher, ni violenter, celui dont les propensions ne sont pas entravées, celui dont les désirs se réalisent, dont les aversions ne subissent point d'échec. Qui donc veut vivre dans l'erreur? Réponse de l'interlocuteur. Personne. Épictète. Qui veut être dupe dans sa vie, céder à l'entraînement, à l'injustice, à l'intempérance, à la morosité, à la bassesse d'âme? Personne. Donc, aucun méchant ne vit à sa guise. Et par conséquent, il n'est pas libre non plus. Et qui veut vivre dans le chagrin, dans la crainte, ressentir l'envie, la pitié, éprouver des désirs sans pouvoir les satisfaire, les aversions sans pouvoir éviter ce qui en fait l'objet? Absolument personne. Alors,
c'est l'introduction. Je vais faire un petit saut parce que le texte est long et je vais. Il commence par l'histoire d'un esclave. C'est quoi, voilà. Et je pense que je vous ai raconté un peu l'histoire, sa propre histoire. Hein. Alors, c'est pas son histoire qu'il racontait ici. Je veux dire que cette histoire qu'il invente a une origine dans l'expérience vécue. C'est le vœu de l'esclave d'être vite libéré. Pourquoi ? Pensez-vous que c'est par désir de donner de l'argent au percepteur du 20e ? Alors, il y a une petite note qui nous explique ce que c'est que le percepteur du 20e. Le 20e était la taxe perçue lors d'un affranchissement. Ah, ok, voilà. Donc, quand l'esclave est affranchi, il paye un 20e. Donc, c'est le vœu de l'esclave d'être vite libéré. Pourquoi ? Pensez-vous que c'est par désir de donner de l'argent au percepteur du 20e ? Non. Mais c'est qu'il s'imagine que jusqu'à maintenant, faute d'avoir obtenu sa liberté, il vivait entravé et misérable. « Si je suis libéré, dit-il, aussitôt, tout est bonheur. Je n'ai plus à faire attention à personne. Je parle à tous comme leur égal et leur semblable. Je voyage où je veux, je viens d'où je veux et je vais où je veux. » Le voilà affranchi. Bien vite, ne sachant où aller manger, il cherche qui il pourra bien flatter, chez qui il pourra bien dîner. Et puis, où il travaille de son corps et endure les travaux les plus pénibles, et s'il vient à trouver quelque râtelier, le voilà tombé dans un esclavage bien plus dur que le premier, ou si même il fait fortune, le voilà, le goujat, est pris d'une jouvencelle. Alors, il est malheureux. Voilà. Qu'est-ce donc qui rend l'homme affranchi de toute entrave et maître de lui-même ? Ce n'est pas la richesse, ni le consulat, ni une préfecture, ni la royauté. Il faut trouver autre chose. Qu'est-ce donc qui fait que lorsqu'on écrit, on ne subit ni entrave ni obstacle ? Réponse de l'interlocuteur, la science de l'écriture. Et quand on joue à la cithare, la science de la cithare. Par conséquent, aussi, quand il s'agit de vivre, c'est la science de la vie. Tu as appris cela comme un principe général. Mais considère-la aussi dans ses applications particulières. Et puis peut-être, on ne sort jamais de l'invitation à la pratique. Ce que tu apprends comme principe général, trouve toujours les applications particulières, c'est-à-dire la pratique et sa quotidien, quotidien. Un homme qui désire quelqu'une des choses qui sont au pouvoir des autres, est-il possible qu'il soit sans entrave ? Non. Est-il possible qu'il ne connaisse pas d'obstacle ? Non. Donc, il ne peut être libre non plus. Or, considère ceci. N'avons-nous rien qui dépende exclusivement de nous ? Ou bien tout en dépend-il ? Ou certaines choses dépendent-elles de nous, tandis que certaines dépendent des autres ? Que veux-tu dire ? Quand tu désires que ton corps conserve son intégrité, cela dépend-il de toi, oui ou non ? Non, cela ne dépend pas de moi. Et quand tu désires qu'il soit bien portant, cela non plus. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand Épictète parle du corps, il parle du corps tel qu'on le connaît à son époque. C'est-à-dire que s'il parle de la migraine comme du destin, c'est avant l'invention de l'aspirine. Voilà. Mais donc, à chaque fois que Épictète fait des développements sur le corps, je garde toujours à l'esprit parce que des fois, il te dit, tiens, une migraine, c'est le destin. Pourquoi tu ne peux rien y faire ? Mais alors, quelqu'un qui connaît l'aspirine, voilà, bref.
Donc, la phrase que je voulais vous lire, c'est celle-là, c'est celle, c'est, je vais la relire, je n'irai pas plus loin, parce que je vais vous lire un petit passage de Et le sommet pour conclure, pour arrêter. C'est celle que je viens de vous lire. Ouais, voilà, sur si, ce qui fait qu'on est libre et sans entrave. Quand on écrit, c'est la science de l'écriture. Et quand on joue de la sitar, c'est la science de la sitar. Et par conséquent aussi, quand il s'agit de vivre, c'est la science de la vie. Et c'est à ça que je rajoute que comme toute science, elle ne se fait pas seule. Et les scientifiques et les chercheurs sont les premiers à nous dire que c'est un corps collectif qui travaille. Donc si pour vivre, il faut la science de la vie, la question du collectif et des espaces d'expression, de l'expérience vécue du collectif, bah, ça croise un peu quelque part les chemins de la littérature. Parce, voilà, pour Épictète, je dis la littérature aussi. Parce que ce n'est pas un philosophe qui est philosophe avec des concepts. Donc, ça part de l'expérience de vie. Et puis, il n'a pas écrit. Hein, il a parlé et c'est son disciple qui a noté mot pour autant que possible, plus près de son expression orale. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un côté très chaud dans son, il manipule l'ironie et le amuse parfois dans certains textes, on a l'impression qu'il dit les choses en amusant en même temps son auditoire. Des fois, il fait semblant de se fâcher, il insulte la personne qui l'a questionné. On imagine un petit théâtre, son école là, la présence orale, j'aime bien dire physique, d'Épictète est très très. Et là, quoi, c'est un plaisir de le lire à haute voix, même si la langue. Alors, il y a des traductions à trouver qui sont peut-être plus fluides que les traditions anciennes, je ne sais pas. Ou alors, si vous lisez le grec ancien,
ouais,
c'est, du bon, c'est du bonheur pur. Attends, je suis exclu.
C'est du latin ou c'est du grec ?
Hein ? Et puis peut-être il enseigne en grec. Ouais, ouais. Et Épictète, il enseigne. D'ailleurs, son nom, c'est le sans nom. Hein. Épictète n'a pas de nom. Épictète signifie celui qui a. Pardon ?
Épictète, oui.
Ce qui a été acheté. Hein.
Oui.
Ouais, c'est une figure sans nom. C'est depuis une figure sans nom que nous entendons ces choses. Quoi. Et je trouve ça magnifique. Je vais juste vous parler de Et il le sum. Voilà, c'est le journal de Et il le sum qui. A été déporté et morte à Auschwitz, elle avait 27 ans, elle a tenu ce journal, et ce qui me frappe, moi, dans ce journal, c'est le nombre de fois, c'est la même façon que le mot bonheur s'écartait, ça a explosé comme les images des galaxies qui explosent, que les astronomes nous montrent, ces espèces de gerbes cosmiques, comme ce mot a explosé. Et il nous semble que c'est la vie est une fête. Et elle a écrit ça quand les événements ont commencé à puis on voit dans le journal les choses se durcir et elle raconte et elle, au détour d'une phrase tout à coup surgit la vie est une fête. Et il y a un moment où les choses sont tellement dures que quand elle écrit cette phrase, la vie est une fête, elle éprouve le besoin d'ajouter, je le répéterai toujours, y compris ici, surtout ici. Donc pour moi, ce qui encore une fois m'intéresse, enfin me parle très fortement, c'est que si une voix aussi forte parle depuis un tel... une telle lointaine relégation du corps et de l'esprit humain, ça dit quelque chose, un peu comme le blues, ce chant des esclaves. Yourcenar dit que c'est du chant sacré. Et c'est en ce sens, moi j'entends c'est ça, voilà, pas comme la parole optimiste, consolante de derrière les fagots, pas du tout. C'est énigmatique. Moi je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à expliquer ça. Je livre ça comme ça, si ça... ça fasse l'effet que ça peut faire sur enfin, chaque lecteur, sa sensibilité. Donc c'est vraiment, c'est en ce sens que ça me... la dimension chant sacré que j'entends, voilà, dans une phrase comme la vie est une fête, comme le mot bonheur arrivant sous la plume de Perthes, c'est une dimension sans sacré. Hein. Et elle écrit, et à un moment donné, elle voit des estampes japonaises, et elle voit, parce que depuis le début du journal, elle là encore, il y a l'écrit. Elle écrit, elle se voit écrire un jour. Et elle décrit, elle a des visions, des choses qu'elle écrirait. Elle sait qu'elle n'est pas prête, mais elle se voit écrire, c'est une certitude. Et elle a comme si elle s'entraîne, comme elle a des exercices qu'elle fait de pensée. Même son journal, il y a des moments où ça fait partie de cet entraînement-là. Donc, il y a cette chose qui traverse tout le journal. Et il y a un moment où elle voit des estampes japonaises et pour elle, elle voit très clairement comme une figuration de son écriture à venir. Et elle décrit ça. Et je voudrais vous lire cette description. Alors, quelque chose sur ce rêve, comment elle exprime ce rêve d'écrire. La seule forme d'accomplissement qui me soit réservée dans cette vie, m'oublier tout entière dans un morceau de prose ou dans un poème, à conquérir de hautes et sanglantes luttes sur moi-même, mot après mot. C'est comme ça qu'elle se figurait, comme ça s'imaginait, se racontait à elle-même, donc à 27 ans, comment elle se voyait écrire. Et là, je vous lis ce passage des estampes japonaises que j'ai corné quelque part là par là, et si je ne trouve pas, ce serait très embêtant. Voilà. Cet après-midi, regardez des estampes japonaises chez Glasner, frappé d'une évidence soudaine. C'est ainsi que je veux écrire. Avec autant d'espace autour de peu de mots. Je hais l'excès de mots. Je voudrais n'écrire que des mots insérés organiquement dans un grand silence, et non des mots qui ne sont là que pour dominer et déchirer ce silence. En réalité, les mots doivent accentuer le silence, comme cette estampe avec une branche fleurie dans un angle inférieur, quelques coups de pinceau délicats, mais quel rendu du plus infime détail. Et tout autour, un grand espace, non pas un vide, disons plutôt un espace inspiré. Je hais l'accumulation des mots. Il faut si peu de mots pour dire les quelques grandes choses qui comptent dans la vie. Si j'écris un jour, et qu'écrirai-je au juste, je voudrais tracer ainsi quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. Et il sera plus difficile de représenter ce silence, d'animer ce blanc, que de trouver les mots. Il s'agira de trouver un juste dosage entre le dit et le non-dit, un non-dit plus gros d'action que tous les mots que l'on peut tisser ensemble. Dans chaque nouvelle ou toute autre forme que je pratiquerai, le fond de non-dit devra recevoir un ton particulier, un contenu spécifique, comme c'était le cas pour chacune de ces estampes japonaises. Il ne s'agit pas d'un silence vague et insaisissable. Il doit avoir des contours bien arrêtés et une forme propre. Ainsi, les mots ne devraient servir qu'à donner au silence sa forme et ses limites. Chaque mot serait comme une pierre miliaire ou un petit tertre au long de chemin infiniment plat et étendu, de plaine infiniment vaste. Plus tard, elle est dans le camp, à Amsterdam, et elle écrit, elle a prêté secours comme infirmière. Elle écrit: il faut bien qu'il y ait un poète dans un camp.
pour vivre en poète cette vie-là. Oui, même cette vie-là, et pouvoir la chanter. Retour à l'allusion que je faisais tout à l'heure au chant sacré. Et bien évidemment, elle parle d'elle à elle-même. Elle n'est pas en train de donner un ordre aux poètes du monde. On entend bien que c'est une parole prononcée dans la solitude de quelqu'un qui dit « je ». Et c'est en ce sens que pour moi, c'est saisissant. Il faut bien qu'il y ait un poète dans un camp pour vivre en poète cette vie-là. Oui, même cette vie-là. Et pouvoir la chanter. Et dans cette situation où elle était, la préoccupation de l'écriture, donc ce qu'elle était et qui était indestructible, et la phrase que je viens de lire, on dit Cartès pour lui donner raison. Enfin, non, on va dire pas lui donner, mais lui donner raison, encore une fois, par sa vie, pas par le discours, puisque lui, il est revenu de là, et ce qu'il a écrit est quelque chose qui déborde le documentaire et qui parle à n'importe quel être humain qui peut se retrouver dans la solitude d'une expérience extrême. Et elle dit, ici, on pourrait écrire des contes. Cela vous paraît sans doute étrange, mais si l'on voulait donner une idée de la vie de ce temps, le mieux serait de le faire sous forme de conte. La détresse ici a si largement dépassé les bornes de la réalité courante qu'elle en devient irréelle. Parfois, en marchant dans le camp, je ris toute seule, en silence, de situations totalement grotesques. Il faudrait vraiment être un très grand poète pour les décrire. J'y arriverai peut-être approximativement dans une dizaine d'années. Voilà, je clôt la séance sur la confiance, et c'est cette phrase de Petit et le Somme.
Bon, merci à vous.
Merci.